Je vous ai laissé un dimanche passé dans l'Exode, au chapitre 7, avec cet épisode où Moïse et Aaron rencontrent un pharaon. Et nous avions ce bâton d'Aaron qui se change en serpent, et puis les magiciens qui arrivent et qui finalement reproduisent ce que Moïse et Aaron viennent de faire. Mais nous avions vu aussi que leur serpent ne font pas le poids face à celui du bâton d'Aaron, et ils sont engloutis. Dieu avait dit à Moïse, « Demande à cette occasion que Pharaon laisse partir mon peuple. » Et puis Dieu avait dit à Moïse, « Mais tu sais, je ferai en sorte qu'il ne t'écoute pas, parce que ce que je veux faire, c'est juger l'Égypte. C'est moi qui ferait sortir mon peuple par ma main. » Et la conséquence de ce refus, c'est ce que nous allons entamer maintenant avec la suite du chapitre 7, et puis ça se poursuivra jusqu'au chapitre 14. Aujourd'hui, nous allons entamer les trois premiers fléaux qui vont se déverser sur l'Égypte. Mais pourquoi trois fléaux ce matin? Et je voudrais qu'on regarde déjà ça ensemble, qu'on parcourt un petit peu la structure de ces fléaux. Et pour cela, je vous demande de regarder avec moi page 43, si vous avez la même version que moi, au chapitre 7. Et nous allons rapidement regarder quelques versets en faisant avancer très très rapidement. Regardez au verset 15. Nous avons là le premier fléau. Et voici ce qu'il nous est dit. « Va trouver le pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau. » Je passe un peu plus loin et je vais jusqu'au verset 26. Et nous avons le deuxième fléau. Et voici ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le pharaon et tu lui annonceras. Et puis je vais encore un peu plus loin. Et je vais au chapitre 8, au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends ton bâton, frappe. Premier fléau. Va voir le pharaon de bon matin près du Nil, tu vas le trouver là. Deuxième fléau, va trouver le pharaon et annonce-lui. Troisième fléau, frappe. Maintenant, regardez la suite. Quatrième fléau, verset 16. Lève-toi de bon matin, présente-toi devant le pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Vous avez déjà entendu ça? Chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, cinquième fléau, va trouver le pharaon et tu lui annonceras. Vous avez déjà entendu ça? Sixième fléau, au verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains, frappe. Septième fléau, verset 13, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant le pharaon. Chapitre 10, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va trouver le pharaon, car j'ai moi-même rendu. Verset 21, l'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel, frappe. À chaque fois, nous avons, dans chaque série, à la première plaie, Dieu envoie Moïse vers le pharaon de bon matin. Ensuite, il lui dit juste, annonce au pharaon. Et ensuite, il lui dit juste, n'annonce rien, frappe. Et en fait, en faisant cela, il construit un récit. Il raconte quelque chose et il nous fait apparaître une structure qui nous montre qu'il veut qu'on considère finalement à chaque fois les plaies par groupe de trois. Et ça nous donne finalement trois fois trois plaies plus une. La première conséquence de cela, c'est que finalement la dixième plaie est vraiment à part. Elle est traitée complètement à part des autres plaies. Ce n'est pas une plaie comme les autres. Déjà, le peuple va devoir se préparer à cette plaie-là. Mais la conséquence de cette plaie sera beaucoup plus grande. Et puis cette plaie porte en germe des choses qui nous touchent encore aujourd'hui. Mais c'est aussi un encouragement à finalement regarder chaque groupe de trois plaies pour voir ce qu'il nous annonce par lui-même. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin avec les trois premières plaies. Et nous allons commencer avec la première plaie, l'eau changée en sang. Mais pour l'instant, je voudrais d'abord lire le texte avec vous. Je suis revenu à Exode chapitre 7 à partir du verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible, Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin, il sortira près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, sur tous les réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devint infect. Les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire l'eau du Nil. Fléau numéro 2, les grenouilles. 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles, elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple, dans tes fours et tes pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi et ton peuple et sur ton peuple et sur tes serviteurs. » L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends ta main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux et les étangs, fais en monter les grenouilles sur l'Égypte. Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Cependant, les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit au Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons, il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Demain. » Moïse dit, « Cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple, il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, les cours intérieures et les champs. On en fit des tas et des tas, et le pays fut infecté. Voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Fléau numéro 3, les moustiques. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ton bâton, frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. » C'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Parce que le Pharaon n'a pas écouté Dieu, parce qu'il a refusé de libérer le peuple de Dieu lorsque Moïse et Aaron sont venus à sa rencontre, Dieu va conformément à sa promesse frapper l'Égypte. Parce que Dieu non plus ne change pas d'avis. C'est une des caractéristiques de Dieu. Dieu ne change pas. Jamais. Dieu ne change pas. Il ne change jamais d'avis. Il ne change jamais d'opinion. Il ne change jamais ses plans. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de Dieu que l'on retrouve tout au long de la parole. Dans le psaume 33, nous lisons « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les projets de son cœur de génération en génération. » Ésaïe 46 « Souvenez-vous du lointain passé, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite. Dès le temps de jadis, ce qui n'est pas encore fait, je dis, mes projets se réaliseront. Je ferai tout ce que je désire. » Ce qui est presque ironique, c'est que ça ressemble beaucoup à ce que dit le Pharaon. « Je ne changerai pas mes projets, je ferai ce que je veux. » Ouais, pour l'instant. Nous l'avons déjà évoqué, mais le peuple de Dieu, de faire sortir son peuple d'Égypte, ne date pas de la veille. C'est une promesse qu'il avait faite dès la création de ce peuple. Il l'avait promis à Abraham plus de 400 ans auparavant. On trouve ça dans Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage. On les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, je la jugerai. » Dieu ne change pas ses plans. Ce qu'il avait prévu, il l'accomplit. En fait, le fait que Dieu ne change pas ses plans nous concerne très directement. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul le reprend ainsi. « En lui, nous avons été choisis dès la fondation du monde. » Non, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et c'est incroyablement rassurant que de savoir cela. Vous savez, il y a des jours où nous définissons notre relation avec Dieu en fonction de ce que nous avons vécu le matin ou la veille. Mais Paul nous dit que les plans de Dieu pour nous ont été fixés avant même la création du monde. Peu importe ce que j'ai vécu le matin, la veille ou il y a 3 jours, ce que Dieu a prévu pour moi, ce que Dieu a prévu pour vous, a été fixé avant même la création du monde. Dieu ne change pas et ça doit nous rassurer. Mais maintenant, je voudrais qu'on regarde un petit peu plus précisément le sens de cette première plaie qui arrive sur l'Égypte. Et pour nous éclairer, j'aimerais qu'on lise un texte dans Ézéchiel, au chapitre 29. Si vous avez la même version que moi, c'est à la page 552. Et je vais juste lire 2 versets. « Fils de l'homme, tourne ton visage... » Pardon, versets 2 et 3. « Fils de l'homme, tourne ton visage vers le Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, tu annonceras. Voici ce que dit l'Éternel. Je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux couché au milieu du Nil, qui dit « Mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » Ce texte nous dit que si Dieu vise le Nil, c'est à cause de la revendication de Pharaon envers celui-ci. « Mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » En fait, Pharaon s'identifiait comme étant le représentant terrestre des dieux. Et il s'attribue finalement la création du Nil, il s'attribue les mérites du Nil. En fait, pour comprendre cela, il faut voir que dans l'Égypte, le Nil, c'est tout. Sans Nil, il n'y a plus rien. La vie de l'Égypte, c'est le Nil. Le Nil fournissait le poisson, l'eau pour le bétail, des terres fertiles grâce à ses crues. Il leur permettait de cultiver le blé, l'orge, l'eau attirait les buffles, attirait le gibier d'eau qui fournissait la viande. Le Nil, c'était vital pour le commerce, pour le transport, tout passait autour du Nil. D'ailleurs, toutes les villes étaient construites au bord du Nil et toute la population habitait au bord du Nil. Le Nil, c'était la vie. Et cette vie était chaque année apportée par les crues du Nil. Et le pharaon prétendait qu'en fait, c'était lui qui ordonnait au Nil de sortir de son cru. Et que grâce à lui, le pays prospérait. Grâce à son intervention, la vie s'écoulait dans l'Égypte. L'eau du Nil donne la vie de l'Égypte et assoit la souveraineté de Pharaon. Alors Dieu change l'eau en sang et il la rend imbuvable. Il la rend impropre à l'irrigation. Il la rend impropre à la vie des animaux. Plus personne ne vient boire dans le Nil. Les poissons meurent. Et le peuple, le Pharaon, ne peut plus prétendre donner la vie à son peuple. Et vous savez, le comble, c'est qu'il reste un peu d'eau. En tout cas, il en reste suffisamment pour que le Pharaon puisse se rebeller et à nouveau charger ses magiciens à la ressecousse. Et les magiciens reproduisent le miracle. Et c'est très ironique, parce que finalement, en reproduisant le miracle, ils augmentent encore la peine du peuple. Il restait peut-être un peu d'eau dans quelques maisons. Et là, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Les magiciens sont passés par là. Merci. Dimanche passé, nous avons vu avec l'épisode des serpents que leur puissance était limitée par rapport à celle de Dieu. Ici, nous voyons une donnée supplémentaire. C'est que leur puissance ne contrarie pas le plan de Dieu. Au contraire, elle ne fait que renforcer le jugement de Dieu sur l'Égypte. Non seulement Dieu ne change pas de plan, mais en plus, rien ne peut l'arrêter dans ses plans. Il règne même sur les forces du mal qui semblent s'opposer à lui, les contraignant à amplifier sa volonté. C'est extrêmement concret. Les magiciens dont nous avons vu la puissance ne font qu'alimenter le plan de Dieu pour sauver son peuple. Je ne pense pas que c'était ce qu'il voulait faire. Il y a maintenant du sang dans toute l'Égypte, et c'est répété maintes fois dans le texte, sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, sur leurs réservoirs d'eau. Il y a du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois, en pierre. Il y a du sang de partout. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le Pharaon s'endurcit, que les Égyptiens sont désespérés, ils creusent. Ils creusent parce que leur Dieu ne peut plus leur donner d'eau. Ils creusent parce que tout se passe comme l'Éternel l'avait dit. Les Égyptiens s'attendaient à Pharaon pour qu'il pourvoie à leur prospérité. Et nous? Qu'en est-il? Qui pourvoit à notre prospérité? Qui comble nos besoins? Est-ce que nous pensons que nos besoins sont comblés par nos employeurs, nos clients, notre compte en banque, notre assurance? Quels sont les dieux qui pourvoient à nos besoins aujourd'hui? Est-ce que nous sommes désespérés quand notre entreprise montre des signes de fragilité, de faiblesse? Est-ce que nous sommes désespérés quand il y a des rumeurs sur un possible plan social? Est-ce que nous sommes désespérés quand nous voyons notre compte en banque qui diminue mois après mois? Est-ce que nous sommes désespérés quand nous constatons que finalement les petites clauses de notre assurance nous disent qu'il ne va peut-être pas payer ce qu'il aurait dû payer? Ou est-ce que c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance pour tout ce dont nous avons besoin? Si nous plaçons notre confiance en Dieu seul, si nous plaçons notre confiance en Dieu, alors même que nous perdrions tout, nous resterions en sécurité. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, alors même que nous perdrions tout, nous resterons en sécurité. Deuxième plaie, les grenouilles. Dieu laisse passer 7 jours entre la première et la seconde plaie. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la première plaie a duré 7 jours, parce que sinon, il n'y aurait sans doute pas besoin d'une deuxième. 7 jours sans eau, normalement, il n'y aurait sans doute plus beaucoup d'Égyptiens qui seraient là. Peut-être le peuple de Dieu non plus d'ailleurs. Et puis, Nous le verrons peut-être encore plus avec les deuxième et les troisième plaies, mais les trois premières plaies n'avaient pas vocation à faire de grands dégâts en Égypte. C'est plutôt une sorte d'avertissement, c'était de l'ordre du désagrément en fait. Regardez, les plaies 1 à 3 vont apporter au final un peu de désagrément et des mauvaises odeurs. Mais jusque-là, ça va. Dieu frappe pas si fort que ça. Les plaies 4 à 6 vont apporter des grands dégâts et des destructions. Les plaies 7 à 9 vont apporter la terreur. Il y a une gradation dans ce que fait un Dieu. Et la dernière plaie apportera la mort jusque dans les maisons. D'ailleurs, regardez, la seconde plaie, elle est presque risible. C'est peut-être même un peu l'intention, finalement. Peut-être une petite moquerie de Dieu. Qui a peur des lions ici ? Non, sérieux, personne ? Qui a peur des lions ici ? Pas, vous vous trouvez face à un lion. Mathieu, merci de lever la main. Alors, qui a peur des lions ici ? Ah, quand même. Ouf. Ok. Qui a peur des araignées ? Ah, il y en a presque autant. Non, l'araignée, on l'écrase. Hein ? Enfin, sauf quand il y en a des millions. Mais qui a peur des grenouilles ? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Non, le seul truc que ça peut faire, la grenouille, c'est quand on l'écrase, c'est pas terrible, mais... Mais il n'y a pas de quoi avoir peur des grenouilles, franchement. C'est pas méchant, une grenouille. C'est mignon, une grenouille. J'ai mon fils qui adorait sauter dessus pour les attraper. Regardez comment est racontée la scène. Il y a des millions de grenouilles qui sortent du Nil, comme quoi la vie a vite repris. On s'attendrait à ce qu'ils disent que, comme dans la première fois, il y en a dans toute l'Égypte. Ah, il dit pas ça. Regardez ce qu'il dit. Elles sortent et elles vont dans la maison de Pharaon, dans sa chambre, dans son lit, ensuite un peu chez ses serviteurs, un peu chez son peuple. Elles seront dans tes fours, dans tes pétrins. Imaginez la tête du cuisinier quand il sent le pain. C'est très ironique. Il se moque. Et le Pharaon, incarnation du Dieu sur terre, le Pharaon qui irrigue le pays en donnant la crue chaque année, il vient de prendre une petite claque là. Il est gêné parce qu'il a des grenouilles dans son lit et qu'il ne va pas pouvoir dormir ce soir. Heureusement, les magiciens sont là. Malheureusement, ils font encore monter des grenouilles sur l'Égypte. Et le pharaon, qui est resté totalement impassible face à son peuple qui creuse pour chercher de l'eau, rappelez-vous ce qu'il est dit. Le pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Son peuple n'a plus rien à boire. Il creuse pour chercher de l'eau, mais lui, il rentre chez lui, il va voir si on ne peut pas trouver quelque chose à boire. Là, ce coup-ci, des grenouilles sont dans son lit. Oh, mince alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Je ne connais pas votre Dieu, avait-il dit à Moïse. Et maintenant, il dit « Priez, votre Dieu ». Je ne sais pas si c'est l'efficacité toute relative de ces magiciens qui ont fini par le convaincre. En tout cas, il reconnaît que la plaie vient de Dieu et que c'est à lui qu'il faut demander. Alors, il propose un compromis. « Ok, faites partir les grenouilles et le peuple pourra aller offrir des sacrifices. » Ce n'est pas anodin. En faisant ça, il vient de reconnaître qu'il y a un autre Dieu que lui qui mérite des sacrifices. Seulement, le problème, c'est que le pharaon ne s'est pas repenti de ses fautes. Il n'a pas vraiment renoncé. Il est juste embêté par les conséquences de son opposition à Dieu. Il n'est pas gêné par son péché. Il est gêné par les conséquences de son péché. Il ne veut pas que Dieu débarrasse son cœur. Il veut que Dieu débarrasse son lit. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qui nous arrive quelquefois. Nous demandons à Dieu de nous épargner des conséquences de nos péchés plutôt que de nous repentir et de regretter sincèrement nos fautes et d'en accepter humblement les conséquences. C'est un peu comme si à la fin du culte, j'allais braquer une banque Oui, j'ai des fois sorti du culte. Vous savez, le dimanche, c'est tranquille. Et puis quand j'entends les sirènes dans la rue, je commence à prier, « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, qu'ils ne me mettent pas en prison, que je puisse sortir de cette banque sans qu'ils me voient. » Et puis je vais tranquillement dépenser mon argent dans les îles. Le pharaon ne renonce pas. Il veut juste être tranquille. Il veut juste qu'on débarrasse son lit. Alors il propose un truc qui pourrait contenter Dieu, pourvu que les grenouilles s'en aillent. D'ailleurs, Moïse lui demande, lui dit, « Mais au fait, quand c'est que tu veux qu'elle parte ?» Et là, hésitation. Si je dis maintenant, et qu'elle parte maintenant, ah, je vais être obligé de reconnaître qu'en fait, c'est Dieu qui les a fait partir. Si je dis dans 3 mois, c'est un peu long. Et mon lit... Mais si je dis demain, et que, en fait, elles partent cette nuit, je pourrais toujours dire qu'en fait, elles sont reparties toutes seules vers le Nil, et que Dieu n'est pas intervenu. Et d'ailleurs, Moïse le souligne, il lui dit... Tu sais, ça va se passer exactement comme tu as dit. Hein. Ça ne se passera pas différemment. Tu seras obligé de reconnaître que c'est Dieu. Sauf qu'elles ne sont pas parties. Dieu avait un autre plan. Il les a juste fait mourir, les grenouilles. Les Égyptiens ne savaient plus quoi en faire. Ils ont commencé à en faire des tas. Elles ont commencé à se décomposer au soleil, à pourrir. L'odeur fétide a dû remplir l'Égypte. Elle aurait dû rappeler à Pharaon l'horreur de son péché. Mais vous savez ce que Pharaon y voit ? Un répit. Littéralement, il y voit un peu d'espace dans la négociation avec Dieu. La pression redescend. Alors il rend son cœur plus dur encore. Et tout ça, ça se passe comme l'Éternel l'avait dit. Alors nous en venons à la troisième plaie avec les puces, ou les moustiques, ou les poux, ou les moucherons. En fait, on ne sait pas trop comment traduire ça. On sait que c'est petit, que ça se promène sur les hommes et les animaux. Et que ce n'est pas super agréable, mais ce n'est pas bien méchant non plus. Et c'est presque ironique finalement. Le pharaon a endurci son cœur et Dieu cherche s'il ne pourrait pas trouver quelque chose de plus petit encore. Le sang dans l'Égypte, ouais, c'est un peu gros, ça. Les magiciens peuvent le faire. Les grenouilles, ouais, les magiciens, ça aussi, peuvent le faire. Pas un autre truc. Ah ouais, des poux. Ah ben, des poux. Ah non, les magiciens, ça, ils peuvent pas faire les poux. Quelques personnes ont essayé d'expliquer les plaies. Une pollution du Nil aurait entraîné la mort des poissons. Alors, les grenouilles, qui sont moins bêtes que les poissons, et qui ont surtout des pattes, sont sorties du Nil. Et puis ensuite, bah, comme elles sont mortes, parce qu'elles n'avaient plus rien à boire, elles non plus, et qu'elles ont commencé à pourrir, eh bien des mouches sont venues. Ou alors c'est le contraire. C'est parce que comme il n'y avait plus de grenouilles pour manger les mouches, eh bien il y avait des mouches de partout. Pas tout à fait ce que le texte dit. Le texte dit que c'est la poussière du sol qui se change en moustique. Alors ça ne veut pas forcément dire que les grains de poussière se sont transformés en moustiques. Mais ça nous montre que la terre complète était recouverte de ces moustiques-là. Au moment où Moïse frappe le sol, des moustiques se lèvent dans toute l'Égypte. C'est un miracle dans le sens d'une intervention directe de Dieu contre les lois de la nature. Le miracle, c'est quand Dieu intervient contre les lois de la nature. La providence, c'est quand Dieu intervient avec les lois de la nature. D'ailleurs, les magiciens sont là. Ils essayent de le reproduire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, ils vont voir Pharaon et lui disent « C'est le doigt de Dieu. » Ils reconnaissent à leur tour que Dieu est derrière les plaies qui se déroulent en Égypte. C'est le doigt de Dieu. Jésus va reprendre cette expression dans l'évangile de Luc. Et je voudrais qu'on lise ça dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Page 672. Nous sommes au verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Nous avons vu la semaine passée que derrière le combat apparent qu'il y a entre Moïse et Pharaon, nous avons une lutte cachée, une lutte entre Dieu et Satan. Mais cette lutte est cachée, et dans l'Ancien Testament, on ne voit quasiment pas cette lutte. D'ailleurs, regardez, dans tout l'Ancien Testament, il y a seulement 5 livres qui mentionnent Satan. Chroniques, Job, Psaume, Zacharie, Ésaïe. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, nulle part vous ne trouverez aucun prophète, aucun roi ou quiconque, personne qui n'ait jamais chassé un seul démon. D'ailleurs, on ne trouve quasiment aucune référence aux démons dans l'Ancien Testament. Les termes hébreux les plus proches sont shed, saïr, qui sont traduits quelquefois par démon, mais aussi surtout par idole, fausse divinité, bouc. Mais dès le commencement de son ministère, Jésus se trouve immédiatement en conflit ouvert avec Satan et les démons. Quand nous sommes à Luc 11, si j'ai bien compté, c'est déjà la 8e fois que Jésus chasse un démon. Sur tout l'Ancien Testament, on n'en a pas un. Et Jésus, en quelques mois, en est déjà au 8e. Et encore, Luc ne fait que raconter les épisodes. Il ne raconte pas toute la vie de Jésus. Et en Luc 11, Jésus est contesté. C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse. Et il lui demande un signe. Et Jésus reprend cette expression, « Vous savez, vous demandez un signe. » Mais il y a longtemps en Égypte, Dieu a produit des signes pour racheter son peuple de l'esclavage. Les magiciens ont reproduit ces signes. Ils ont produit des serpents, mais ces serpents ont été engloutis. Ils ont changé l'eau en sang et ils se sont privés eux-mêmes d'eau. Ils ont fait monter des grenouilles en Égypte et leur roi a dû prier pour les faire partir. Et ils n'ont pas pu produire les moustiques. Ils ont été obligés de reconnaître que derrière Moïse et Aaron, Dieu était en train d'agir. Aujourd'hui, leur dit Jésus, il y a plus que Moïse. Je suis venu dans le monde et un combat se déroule maintenant au grand jour. Les démons eux-mêmes reconnaissent mon autorité. Les démons eux-mêmes reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dit, mais aujourd'hui, il y a plus que la délivrance d'un peuple d'Hébreux de l'Égypte. Le royaume de Dieu est venu. Vous êtes en train d'assister à quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Le roi est venu sur la terre. Il démontre son autorité sur le prince de ce monde. Et cette autorité, elle est démontrée de manière absolue à la croix. Aujourd'hui, Jésus nous invite à reconnaître qu'il est le doigt de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui, par sa vie, nous rachète. Il est celui qui veut dominer nos vies. Il veut être souverain sur nos vies. Par 3 fois, le cœur de Pharaon s'est endurci. Il refuse la souveraineté de Dieu sur sa vie. Il refuse la souveraineté de Dieu sur son pays. Qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Acceptons-nous la souveraineté de Dieu dans nos vies ? Et je voudrais juste terminer en priant. Notre Dieu, nous voyons dans ce premier épisode des plaies que tu agis. Que tu viens chercher ton peuple, que c'est toi-même qui es à l'œuvre et que Pharaon ne peut pas le contester, que les magiciens ne peuvent pas le contester et que finalement, Ce que tu as commencé dans ces trois plaies, tu vas le continuer jusqu'à ce que ton plan s'accomplisse. Et il en est de même pour nous. Un jour, tu as envoyé ton Fils dans le monde, et c'est incontestable. Et il a dominé sur les puissances du mal. Et à la croix, il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, nous voulons reconnaître ta souveraineté dans nos vies. Nous voulons te prier que si quelqu'un ici n'a pas accepté à ce que tu règnes sur sa vie, eh bien, il puisse aujourd'hui ne pas endurcir son cœur, mais s'ouvrir à toi. Nous ne voulons pas seulement que tu nous sauves, nous voulons que tu règnes sur nous. Nous voulons obéir à ta voix. Nous voulons marcher avec toi et pour toi. Seigneur, guide-nous, enseigne-nous, montre-nous à ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen.